Vous écoutez, on lit pour vous.
Quand des travaux routiers poussent des enseignants à démissionner. Un texte de Zacharie Goudreau, paru le 7 mars 2025 dans Le Devoir. Le nombre annuel de démissions d'enseignants au Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île, CSSPI, dans l'est de Montréal, a augmenté de plus de 30% depuis la fermeture partielle du pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, a appris Le Devoir. Une situation qui a bénéficié à des écoles de la rive sud de la région de Montréal, qui ont ainsi embauché une série d'enseignants exaspérés par la congestion routière. Le 31 octobre 2022, 3 voies sur 6 du pont-tunnel reliant Montréal à Boucherville ont été fermées dans le cadre de travaux de réfection qui devraient prendre fin à l'automne 2026, avec un an de retard. Or, ce chantier n'était même pas encore lancé que des enseignants montréalais qui résidaient sur la rive sud évaluaient déjà leurs options pour ne pas avoir à souffrir de ces travaux lors de leur aller-retour quotidien entre le travail et la maison. Avant même le début de la première pelletée de terre dans le tunnel, on recevait un flot anormalement élevé d'appels d'enseignants de l'île de Montréal qui nous questionnaient sur les processus menant à l'obtention d'un poste sur la rive sud, se rappelle le président du syndicat de Champlain, Jean-François Guilbeault, qui représente des milliers d'enseignants de la Montérégie, dont ceux des CSS Marie-Victorin et des Patriotes. Ça a permis d'avoir un bassin d'enseignants légalement qualifiés qui est venu joindre ces deux centres de services scolaires, poursuit M. Guilbeault, ce qui s'est fait au détriment, notamment, du CSSPI. Un bond dans les démissions. L'organisation a ainsi noté une hausse du nombre de ses enseignants démissionnaires au cours de l'année scolaire 2022-2023, une situation qu'elle associe, principalement aux questions de transport, notamment la réfection du pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Le nombre moyen de démissions d'enseignants dans les écoles de l'Est de l'île de Montréal est ainsi passé de 70 par année pendant les 4 années précédant 2022-2023 à 105 démissions par an depuis, indique le CSSPI dans un courriel au Devoir. Et, d'après nos données actuelles, nous prévoyons que le nombre de démissions restera dans cet ordre de grandeur pour 2025, ajoute-t-il. L'organisation précise cependant que son personnel enseignant a augmenté dans les dernières années, ce qui pourrait aussi avoir joué sur le nombre de démissions enregistrées. Ce CSS de l'Est de Montréal compte actuellement plus de 3200 enseignants, ce qui vient établir le taux de démission de ces derniers à 3,28%. L'organisation constate ainsi que plusieurs enseignants qui demeurent sur la rive sud ont choisi de rapprocher leur lieu de travail de leur domicile. Une décision que ceux-ci n'auraient probablement pas prise il y a 10 ou 15 ans, car elle aurait impliqué pour des enseignants à temps plein de perdre les avantages liés à leur ancienneté en changeant d'employeur, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui en contexte de pénurie de main-d'œuvre, relève M. Guilbeault. J'ai commencé à travailler à la fin des années 1990 et on prenait ce qui passait, parce qu'il n'y en avait pas de travail. On avait des contrats à temps partiel pendant des années avant d'obtenir un contrat à temps plein et une permanence. Se rappelle-t-il. Désormais, un enseignant peut quitter un poste à temps complet à Montréal et obtenir dès son embauche un horaire tout aussi intéressant en Montérégie, constate le représentant syndical. Les gens magasinent leur centre de service scolaire, leur école, et ça, c'est une variable qu'on n'avait pas avant, mais qui existe aujourd'hui et qui donne des opportunités à des gens de se rapprocher de la maison, ajoute-t-il. Accès à la propriété. Au CSS de Montréal, le taux de démission d'enseignants s'élève en moyenne à 3,7% depuis 2021-2022, un pourcentage qui ne semble pas avoir été affecté par les travaux dans le pont-tunnel selon l'organisation. Ce sont tout de même 329 enseignants qui ont démissionné en 2023-2024, notamment en raison d'une insatisfaction par rapport à leurs conditions de travail ou pour aller travailler dans une autre ville ou une autre province. Préoccupé par la perspective que ce chantier puisse allonger le temps de transport de certains membres de son personnel, le CSS Marguerite Bourgeois a pour sa part décidé en 2022 de cartographier le lieu de résidence des employés et employées. L'exercice nous a permis de constater que la quasi-totalité des membres de notre personnel n'habite pas dans les secteurs névralgiques de la rive sud affectés par les travaux au pont-tunnel, ajoute l'organisation. Ce chantier n'a donc pas complexifié la rétention de son personnel. Ce sont tout de même 99 de ces enseignants qui ont démissionné pour diverses raisons en 2023-2024, soit 1,95% d'entre eux. D'ailleurs, sur le terrain, on constate qu'au-delà de la congestion routière, l'accès plus difficile à la propriété à Montréal peut également inciter des enseignants et d'autres membres du personnel scolaire à déménager à l'extérieur de l'île pour y vivre et y travailler. C'est sûr que le pont-tunnel a été un gros facteur dans certaines démissions, mais aussi le fait que ce n'est plus possible pour les gens de devenir propriétaires à Montréal, estime ainsi le président de l'Association professionnelle du personnel administratif, Michel Picard, dont le syndicat représente notamment les employés de soutien scolaire du CSSDM. Le pont-tunnel a été un accélérateur d'un phénomène déjà présent, dans le sens qu'on se demande si on ne devrait pas se rapprocher de la maison. Puis là arrivent les travaux, et c'est l'encouragement de plus, remarque pour sa part la présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires, Kathleen Legault. Selon elle, il faut regarder de près ce que les écoles de Montréal pourraient faire de plus pour garder les gens sur l'île, où les besoins en main-d'œuvre sont majeurs. D'autre part, malgré le recrutement effectué ces dernières années auprès d'enseignants qui travaillaient à Montréal, la pénurie continue de s'aggraver dans les écoles de la Rive-Sud, relève Éric Chevalier, qui est membre du conseil d'administration de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles. Là aussi, le nombre d'élèves croît plus vite dans les écoles que le nombre d'employés que ces dernières sont en mesure d'embaucher. On vit la même réalité qu'ailleurs, résume Jean-François Guilbeault. C'était « Quand des travaux routiers poussent des enseignants à démissionner », un texte de Zachary Goudreau paru le 7 mars 2025 dans Le Devoir.
Allié à bienveillance variable. Une chronique de Samuel Larochelle, parue le 21 février 2025 dans le magazine Fugue. On fait quoi avec les hétéros à l'aise avec les LGB, lesbiennes, gays, bi, mais incapables d'accueillir le reste de l'acronyme? On réagit comment avec les gens zéro homophobes, mais dont les paroles sont parfois racistes? On répond quoi aux personnes si ouvertes qu'elles se lassent de nos revendications? Il m'arrive de vouloir prendre des hétéros dans mes bras. Quand je suis en présence d'humains qui n'ont jamais compris le malaise envers les LGBTQ+. De gens qui se sont intéressés à nos amours, plusieurs décennies avant la légalisation du mariage gay. De straight qui n'ont jamais eu peur de défendre les queer face aux esprits obtus. J'ai envie de les inviter dans un parc pour qu'on se donne un câlin aussi rassembleur qu'une prestation de Céline aux Jeux olympiques. Pourtant, quand j'entends ces hétéros résumer les personnes d'origine diverse à des stéréotypes ou utiliser de vieux termes offensants par habitude, supposément sans méchanceté, je ne sais plus sur quel pied danser. J'ai grandi en refusant le racisme, tout en apprenant à identifier mes biais inconscients pour m'améliorer. Je m'informe sur les réalités qui ne sont pas les miennes. Mon entourage est composé de personnes d'origine variée. Je prends la parole quand j'entends des horreurs. Je n'accepte pas qu'on utilise des termes issus du racisme ordinaire pour parler des personnes autochtones, noires, latinx, arabes et asiatiques. J'essaie de nuancer les discours et de déconstruire les propos dénués de sens. Je suis néanmoins partagé. À force d'intervenir autant pour les défendre, est-ce que je risque de détruire les liens avec certains, certaines hétéros qui offrent un soutien indéfectible aux LGBTQ+ depuis des lunes? Comment gérer ce conflit de loyauté? En éradiquant de mon entourage toutes les personnes qui font preuve de racisme ordinaire, même si elles protègent les queers depuis des décennies? Si vous me permettez l'analogie, le dilemme est en partie similaire à celui des gens qui songent à quitter Facebook, Instagram et X pour exprimer leur opposition face à la désinformation, la montée de la droite et la prolifération de bêtises envers les minorités. On peut quitter le navire ou rester à bord pour contrebalancer la haine avec la bienveillance et les faits. Même si j'ai quitté Twitter il y a plusieurs années pour protéger ma santé mentale contre le flot de paroles déshumanisantes, je reste pour l'instant sur Facebook et Instagram, afin de ne pas céder le terrain à l'horreur. Et en misant sur les communautés bâties pour faire résonner nos voix plus fort. J'ai envie de faire de même avec les humains à bienveillance variable. Qu'on me comprenne bien, les intolérances me font hurler et me donnent régulièrement envie de rejeter en bloc tous les propriétaires d'un esprit en partie fermé. Mais est-ce de cette façon qu'on fera avancer la société? Ne suis-je pas, en tant que journaliste, partisan de l'éducation pour élargir les mentalités? J'ai envie de répondre oui la plupart du temps, mais pas toujours. Je crois que les membres des minorités auront toujours la responsabilité de vulgariser leur réalité, même si on rêve du jour où les personnes issues de la majorité feront l'effort par elles-mêmes. Je pense aussi que plus ces dernières noueront des liens avec des gens différents d'elles, plus l'envie de s'auto-éduquer s'imposera. Cela dit, je ressens de plus en plus de fatigue queer. En plus d'accumuler un lot de déceptions et de peurs face aux attaques envers nos communautés, je suis parfois tanné d'expliquer aux hétéros cisgenres nos enjeux et nos nuances. Je suis là de répéter les mêmes concepts. J'ai du mal à saisir pourquoi autant de LGB ont été capables de comprendre les réalités trans et non-binaires, même s'il était question de sujets reliés à l'identité de genre et non aux orientations sexuelles, mais que les hétéros cis ont de la difficulté à en faire autant. On me répondra que les lesbiennes, gays et bisexuelles ont une capacité plus grande à accepter un chemin de vie différent, après avoir compris et accepté leur propre trajectoire non traditionnelle. Peut-être. Mais je trouve ça mince. Quand on veut vraiment comprendre ce qu'on ne connaît pas, on peut tout simplement faire l'effort. Dans un monde idéal, ces hétéros cis ne tomberont pas dans le piège de l'ouverture qui nous met indirectement en danger, c'est-à-dire en faisant preuve d'un tel accueil envers nos parcours amoureux, sexuels, identitaires, qu'elles ne comprennent plus l'intolérance dont nous sommes victimes et qui, elle, affirme que personne ne devrait agir différemment avec les queers, nous traiter inéquitablement, débattre sur nos enjeux, parler de nos réalités, discourir sur qui on est. Et elle ne réalise pas que ce genre d'ouverture invisibilise les combats à mener, les droits sans cesse fragilisés et une réalité indéniable. Malgré les efforts fournis par certaines personnes queer pour mener une vie identique aux hétéros cis, le monde LGBTQ+ est et sera toujours une culture unique qui ne doit pas rester dans l'ombre. Comme le dit une publication qui circule sur les réseaux sociaux, « On va continuer de briller tellement fort qu'on va brûler leurs hosties d'yeux. » C'était « Allié à bienveillance variable », une chronique de Samuel Larochelle parue le 21 février 2025 dans le magazine Fugue.
Le troisième tiroir à gauche de l'évier. Un texte de Mario Girard paru le 1er mars 2025 dans la presse. Nous sommes nombreux à en avoir un. Je vous parle du fameux tiroir de débarras. Vous savez, celui où cohabitent des objets qui n'ont aucun lien les uns avec les autres, mais qui sont là pour nous faciliter la vie au cas où. Fascinant mélange du kit de survivaliste, du coffre d'outils et de la trousse de premiers soins, le tiroir de débarras doit sa particularité à l'éclectisme des objets qu'on y entrepose souvent, à la hâte d'ailleurs. On ne sait pas où ranger un truc, on le balance dans le tiroir de débarras. Plusieurs de ces objets sont là parce qu'ils sont comme ce cher Ovid Plouf, il n'y a pas de place nulle part dans le monde entier pour eux. Montre-moi ta maison, je te dirai qui tu es. On pourrait dire la même chose du tiroir de débarras. Chacun le constitue selon sa personnalité et ses besoins. Du ruban adhésif pour les fois où on doit emballer un cadeau à la dernière minute. Des tournevis à tête plate, carré ou étoile pour quand un panneau d'armoire devient chambranlant. Des mini-ampoules halogènes qui prennent 20 minutes à installer sous l'armoire. Des piles AAA, de vieilles factures. De la ficelle pour attacher les pattes de la dinde du réveillon, des clés dont on a oublié à quelle serrure elles appartiennent, un tube de colle Crazy Glue, séché depuis 3 ans, ou un sac de pinouche pour fixer des tablettes IKEA au cas où. Tiens, au sujet d'IKEA. Si vous effectuez une recherche web sur le désordre des maisons, on vous dirige automatiquement vers ce temple du rangement et des boulettes suédoises. C'est comme si on voulait nous dire qu'on n'a plus le droit de cultiver le désordre. Nous vivons une époque qui prône l'ordre et le rangement jusqu'à l'obsession. J'en ai d'ailleurs marre d'entendre toutes sortes de théories sur le désordre et le rangement. Le désordre favorise la créativité. Le rangement permet d'avoir des idées claires. On dit aussi que ranger est souvent une défense contre l'angoisse et l'impuissance. J'imagine que les ventes de classeurs ont dû connaître une montée exponentielle depuis le retour de Donald Trump. Cette folie du rangement va loin. Saviez-vous qu'il existe au Canada une association des organisateurs professionnels? Ces experts, des clones de Marie Kondo, ancienne prêtresse du triage et du classement, viennent en aide aux gens qui n'arrivent pas à mettre de l'ordre dans leur demeure ou leur lieu de travail. À la manière du défi 28 jours sans alcool, cette association propose le défi 30 sacs en 30 jours. Avis aux intéressés. Cette fixation du rangement fait du tiroir de débarras un espace où peut s'exprimer une certaine délinquance. Mais attention, une délinquance contrôlée. Le tiroir de débarras est un désordre qu'on ne voit pas. Il n'est pas comme la chambre de l'ado ou le sous-sol des enfants. C'est le coffre au trésor des adultes. Ce désordre, caché de tous, nous appartient. Il a quelque chose d'intime. J'ai grandi dans une maison où régnait l'ordre. Mes parents avaient quand même un tiroir de débarras. Ils l'appelaient le tiroir à drigaille. J'ai longtemps pensé que ce mot était une invention. J'ai découvert qu'il désigne un ensemble d'objets divers et sans valeur significative, souvent encombrants. Bref, mes parents n'étaient pas dans le champ. J'aime beaucoup l'ordre chez moi, mais cela ne m'empêche pas d'avoir un tiroir de débarras. C'est le 3e à gauche de l'évier. Il est intéressant de savoir que cet espace de la maison ne vient pas au monde instantanément. Personne ne décrète un jour « ça sera le tiroir de débarras ». En fait, il est comme un être humain. Il grandit avec ce qui l'entoure, puis tout doucement, sa personnalité prend forme. Et un jour, comme un adolescent dont la voix mue, le tiroir de débarras s'impose. Il grossit. Il prend de mauvais plis et finit par déborder. Notre côté ordonné prend alors le dessus. On entreprend de faire son ménage. On sort tout, on fait l'inventaire de chaque objet, on jette environ 10 % de son contenu et on remet tout le reste dans le tiroir. Au cas où. Le tiroir de débarras a quelque chose de rassurant et de réconfortant. On sait que s'il y a une panne d'électricité ou une tempête de verglas, il sera là avec son couteau suisse et sa lampe de poche. Il en va ainsi dans notre vie. Tous les jours, on répare, on redresse, on resserre et on attache. On le fait pour nos enfants, nos amis, nos parents, nos collègues ou l'amour de notre vie. On ouvre ce tiroir intérieur quand il y a des morceaux de cœur à recoller ou des peurs à calfeutrer. Et on le fait avec notre instinct. Avec ce que l'on croit qui est bon, avec des outils qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qu'on conserve au fond de nous dans un fabuleux désordre. Au cas où. C'était le troisième tiroir à gauche de l'évier, un texte de Mario Girard paru le 1er mars 2025 dans la presse.
Cauchemar mondial, amour local, un texte de Stéphane Dompierre, paru le 2 mars 2024 dans la presse. Nous donnons carte blanche à Stéphane Dompierre qui invite à une révolution de la gentillesse. Le monde est amoché, soyons aimables. Je le constate au quotidien, les gens ne sont plus très gentils et je m'inclus dans le lot. Je ne suis pas la pire personne, mais pas la meilleure non plus. Je suis plutôt du genre à me mêler de mes affaires. Ta voiture est pognée dans la neige, tu fais tourner tes roues dans le vide à 200 km/h, et ça ne servira à rien. Ça te regarde. Je trouve toujours une bonne raison pour ne pas t'aider. Si tu es trop paresseux pour pelleter afin de dégager le chemin, pourquoi j'irais te pousser en me cassant le dos et en salissant mon manteau? Afin de traiter tout le monde égal, aussi bien aider personne, ai-je probablement fini par me dire inconsciemment. Par conséquent, je ne m'attends pas vraiment à des gestes aimables de la part des autres. C'est peu de dire que je ne mets pas la barre haut. Ma barre est facile à enjamber. Elle traîne par terre dans la gadoue. Quelqu'un devant moi me referme la porte d'un commerce au nez plutôt que de me la tenir. Rien de plus normal. Et je vois même le bon côté des choses. Au moins, cette personne ne m'a pas craché dessus avant de me fermer la porte au nez. Yeah! Mais là, le monde brûle. Je me dis que pour compenser, on aurait besoin d'un peu de gentillesse. Et je parle, mais ça ne se fera pas tout seul. Je crois que je vais donc devoir m'y mettre afin de donner l'exemple. Dans quoi je viens de m'embarquer? Le monde est à ce point amoché que c'est là qu'on est rendu. Il faut que moi, je sois aimable et misère. OK. Je vais essayer. Je sais bien que je ne peux pas m'attendre à des gestes bienveillants venant d'inconnus si je n'en fais pas moi-même. Je vais être tellement fin avec les gens que je croise sur mon chemin qu'ils n'auront pas le choix de se rappeler que l'amabilité existe. Et ils sont tellement stressés, fatigués, dépassés, déprimés que ça va prendre des gestes radicaux pour leur remonter le moral. T'es une grand-mère qui a besoin d'aide pour traverser la rue? Accroche-toi à mon bras, madame. On va traverser toutes les foutues rues de Montréal, si tu veux, en prenant tout le temps qu'il faudra. Tu veux que je t'aide à sortir ta voiture du banc de neige? Ben finalement, je vais le faire. Attache ta tuque avec la broche. Je vais te pousser de Montréal à Joliette si ça peut te mettre un sourire au visage. Chaque affiche délavée de chats perdus me fera déclencher une enquête. Préparez-vous, je vais vous appeler et j'aurai besoin de savoir. Votre chat est-il toujours porté disparu? Quelles sont ses gâteries préférées? À quelle vitesse court-il que je puisse m'entraîner afin d'augmenter mes chances de l'attraper? Je vais aimer mon prochain sans me demander s'il le mérite, parce que de toute façon, il a assurément besoin d'amour. Je le vois dans sa face. Je vais lui faire des compliments. Je vais même lui sourire. Prépare-toi, prochain, j'arrive. Je vais peut-être même lui demander comment il va. Et je ne me contenterai pas d'un très bien merci sur le pilote automatique. Je veux tout savoir. En échange de tout ça, je ne vais rien attendre en retour. Le monde va mal. Alors je ne veux pas me mettre trop de pression non plus. Quelqu'un hoche la tête en remarquant ma présence. Ma journée est faite. Quelqu'un esquisse un sourire qui a l'air sincère. Je capote. Je me suis habituée à vivre sans la moindre miette. Alors quand quelqu'un me lance un dessous de pain hamburger un peu sec, je le prends. Je le mets dans mon cœur et j'y repense avant de m'endormir. Évidemment, tout ça sera plus efficace si je ne suis pas le seul à faire mon effort de guerre. Pour déclencher une révolution, ça prend une armée. Imaginez le gars qui affiche le même air aigri depuis 2008 et qui, la même journée, reçoit de l'attention bienveillante à 3 ou 4 reprises de plusieurs personnes différentes, il va réaliser qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. Et on apprend par imitation. Peut-être qu'on va l'avoir à l'usure, qu'il va trouver que les gens sont rendus bienveillants et qu'il va lui-même aussi faire un geste aimable et gratuit, comme ça, juste pour voir ce que ça fait. Et ça va lui procurer une petite émotion agréable. Il est venu le temps de désaigrir les aigris, de débabouner les babouneux, de redresser les caquets-bas. Je suis prêt à le faire, mais pas tout seul. La tâche est immense, mais il faut simplement y aller une baboune à la fois. Qui est Stéphane Dompierre? Stéphane Dompierre est écrivain, éditeur et chroniqueur. Il a signé plus d'une demi-douzaine de romans, dont « Novice » en 2022, ainsi que les recueils de chroniques « Fâche et noir » et « Marcher sur un Lego et autres raisons d'aimer la vie ». Il est directeur de la collection « La Chope » chez Québec Amérique. C'était « Cauchemar mondial, amour local », un texte de Stéphane Dompierre, paru le 2 mars 2024 dans La Presse.